Scene one, Apple, take two.
En direct de Cannes, voici La Passion du 7e art.
Bonjour à tous, on se retrouve en ce troisième jour sur la croisette et le festival qui commence vraiment à s'installer. Hein. Les files s'organisent, les accrédités ont retrouvé leurs habitudes. Petit café le matin, on peut les retrouver ensuite en terrasse, souvent terrasse presse en fin d'après-midi. On croise déjà quand même des gens un peu épuisés, mais heureux en même temps. Des cinéastes du monde entier qui se saluent en courant d'une salle à l'autre. C'est ça, Cannes, une ville dans la ville, avec ses propres lois, son propre rythme et cette lumière méditerranéenne qui rend tout un peu irréel. Alors pour ma part, ma journée, je suis allée au Théâtre de la Croisette, donc à la quinzaine des cinéastes, pour voir le film Gabin, le premier long métrage documentaire de Maxence Voiseux. Donc le principe est simple, hein. C'est 10 ans de la vie d'un garçon de l'Artois, fils d'un boucher et d'une éleveuse, à l'âge charnière où se dessinent des rêves d'avenir, libéré de l'ombre familiale. Gabin avait annoncé d'emblée vouloir faire un métier avec des animaux vivants, et pas comme son père, lui, qui est donc boucher. Et le film, il suit donc ce fil avec une patience et une délicatesse rares. Ce qui compte, ce n'est pas son âge, c'est sa position finalement au sein de l'architecture familiale, son refus de l'autorité du père et son envie désespérée d'aider sa mère. C'est rugueux, intime et profondément humain. C'est vraiment un documentaire d'une tendresse infinie. J'ai beaucoup aimé. Et ensuite, donc, je vais vous parler d'un second film. C'est Le Soir, là. Dans un tout autre registre, c'est donc Les Caprices de l'Enfant Roi de Michel Leclerc, qui sera également ce soir au cinéma de la plage. La grande séance en plein air, hein, sous les étoiles avec la mer en fond. Donc nous sommes en 1651, la Fronde menace et Anne d'Autriche donc exfiltre son fils Louis, le futur roi Louis XIV, en le confiant à Cyrano de Bergerac, qui le cache dans la troupe de Molière. Donc Artus en Cyrano, nous retrouvons également Franck Dubosc, Doria Tillier, Julia Piaton. C'est vraiment une comédie historique, légère et bien menée, qui donne à voir un jeune prince découvrir la vie, l'art, le travail des comédiens et tout ce qui va forger le roi Soleil. C'est vraiment une belle façon de finir la journée avec ce regard décalé, drôle et chaleureux. Donc voilà, deux films sur la jeunesse, deux façons de grandir. L'une à la ferme dans le Nord réel et l'autre plutôt sur les planches dans le Paris de légende finalement. Et au milieu de tout ça, on retrouve bien évidemment Cannes. Et maintenant Pascal pour donc les films de la sélection officielle.
Hier, on n'avait pas parlé quand même de la fameuse leçon de cinéma de Peter Jackson. Alors c'était pas tout à fait une leçon de cinéma, c'était plutôt une rencontre animée par Didier Alouche qu'on connaît bien. Qui est bilingue, et Peter Jackson, là, il nous est apparu quand même beaucoup plus détendu, parce que la veille, dans son costume pour sa palme d'or d'honneur, le jour de l'ouverture, il semblait un peu engoncé. Là, il est beaucoup plus détendu dans une vêture qui lui correspond mieux. Il nous a livré quelques secrets. D'abord, le fait qu'il rêvait d'être photograveur. Et c'est normalement, c'était son destin, mais le cinéma l'a rattrapé. Qu'il a voulu faire du cinéma parce que c'est King Kong qui lui en a donné envie quand il a vu ce film. Que Elijah Wood était dans la salle et que Elijah Wood, figurez-vous que pendant des heures et des heures, il a travaillé certaines scènes avec Peter Jackson. Il était tout le temps souriant, dit-il. Et c'est grâce à lui que j'ai pu faire la trilogie du Seigneur des Anneaux, parce que quand il a vu l'ampleur de la tâche, en fait, il arrivait sur le plateau, il disait oui avec un air un peu mystérieux à tout le monde, mais il ne savait absolument pas ce qu'il allait faire. Et c'est en questionnant le monteur, le caméraman, le chef-op, le photographe de plateau, qu'il y a toutes les idées que les uns disaient, et notamment bien sûr Elijah Wood, eh bien il est condensé et pour faire peut-être la plus grande et la plus belle trilogie qu'on ait jamais faite de l'histoire du cinéma. Voilà. Et puis, hein, quand même, un scoop aussi, hein, qu'il nous a dit, c'est que le prochain Tintin, ce ne sera pas Steven Spielberg qui devait le faire, puisque c'était lui. On avait dit un Peter Jackson et un pour Spielberg. Ce sera bien lui, et que juste avant de venir à cette rencontre avec le public de la salle de Bussy à Cannes, eh bien, en fait, il est en train d'écrire encore quelques scènes de Tintin, son prochain film. Voilà. Alors nous, du coup, ben effectivement, on a vu quelques films, mais également d'un certain regard. Hein. Le premier, c'est un film qui est avec un titre à rallonge. Alors, il s'agit de Teenage Sex and Death, et c'est Adskant Miasma. Alors, c'est un hommage au cinéma d'horreur, hein, au cinéma de genre d'horreur, et on a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à voir ce film, qui au départ était annoncé comme une réalisatrice qui veut faire ressusciter un genre, donc le miasma, hein, qui en est à sa 9e édition, et qui veut lui donner un coup de jeune. Et avec du wokisme, avec tout ce qu'on déteste cordialement. Et en fait, c'est un film qui se moque des wokismes et du wokisme. Et donc, c'est un film très réjouissant, très catharsique, en quelque sorte. Donc, qui aura peut-être, je l'espère, son petit succès quand il sortira en salle. C'est le film qui avait fait donc l'ouverture d'Un certain regard, qui est l'autre sélection officielle de Cannes. Et puis, Quelques mots d'amour. Quelques mots d'amour, c'est avec Asie Erzi. C'est un film de Rudy Rosenberg. Rudy Rosenberg, c'est le meilleur ami d'enfance de Hugo Sélignac. On le salue, l'ami Hugo. C'est un réalisateur, un producteur qu'on connaît bien, qui fait du très très bon travail avec sa boîte de production qui est Shifumi. Et là, avec Quelques mots d'amour, on pouvait craindre le pire. Sujet quand même un peu social, en banlieue, etc. Une femme qui est maghrébine, qui élève ses deux gamins. Et en fait, c'est lumineux parce que Asia Erzi, eh ben, ça fait partie de ces actrices qui, en très peu de choses, arrivent à faire passer le maximum. Nous, on a beaucoup aimé. C'est un coup de cœur, hein, Quelques mots d'amour. Et puis donc, pour la compétition officielle aujourd'hui, ben, on a vu Fatherland. Fatherland, c'est le film de Pavel Polinowski qui avait fait colloir en 2018, ce qui lui avait valu à Cannes un prix justifié de meilleur réalisateur. Et là, il nous revient avec ce film que l'on a vraiment dégusté, avec toujours une actrice qu'on adore, c'est Sandra Hüller, aux côtés de Hans Isler, qui est un très très grand acteur allemand, August Diehl également. Nous sommes donc en 1949, Thomas Mann, le grand écrivain, fait une tournée en Allemagne, un pays où il s'était juré de ne plus remettre les pieds puisqu'il avait quitté en 1933 à cause d'Hitler. Il est lauréat du prix Nobel de littérature, donc c'est une première fois qu'il revient en Allemagne de l'après-guerre. Il accompagne sa fille Erika, qui est une actrice, écrivain et pilote de rallye, et c'est bien sûr Sandra Hüller. Au volant d'une Buick noire, ils entreprennent un voyage éprouvant dans un pays qu'ils ont fui 16 ans plus tôt, lors de la prise de pouvoir du parti nazi, de Francfort sous domination américaine jusqu'à Weimar, contrôlé par les soviétiques. Père et fille traversent une Allemagne en ruine, coupée en deux par la guerre froide. Et gageons que ce film pourrait très très bien se retrouver au palmarès du Festival de Cannes. Et puis l'autre film, ben c'était un événement, c'est Histoire parallèle d'Asghar Farhadi, le grand metteur en scène iranien, qui a tourné ce film comme le passé, donc en France, à Paris. Il a vécu 3 ans à Paris, et donc il connaît bien la ville. Quand il a eu ce scénario finalisé, il s'est dit que ce film ne pouvait pas être tourné en Iran, et ni aux États-Unis. Il avait fait pas mal de repérages à New York, que c'était un film profondément ancré dans l'univers et l'imaginaire européen. Et donc, il est allé à Paris pour le tourner avec un casting de rêve français, avec Isabelle Huppert, Virginie Fira, Pierre Niney, Vincent Cassel. C'est un film avant tout sur le doute. Quand le doute s'installe, eh bien, comment ensuite ne pas céder à la tentation de la jalousie, d'épier l'autre, etc. Et ça va, bien sûr, peut-être mal se terminer, le tout avec une écrivaine, Isabelle Huppert, qui observe une jeune femme qui, en face de chez elle, c'est Virginie Fira, qui ressemble furieusement à sa mère. et qui va s'imaginer un tas de choses et un SDF clandestin qu'elle héberge va se piquer également au jeu et va devenir un écrivain bis. C'est un film à tiroir et il y en a beaucoup qui s'ouvrent, beaucoup qui se referment. Là où nous sommes complètement désorientés, c'est pour la fin du film, dont on vous dira pas bien sûr de quoi il s'agit, mais on l'avait imaginé tout autrement, parce qu'un film à tiroir, c'est comme un puzzle qu'on jette sur une grande table, et à la fin, toutes les pièces doivent s'encastrer les unes dans les autres. Et là, on reste un petit peu sur notre fin, sur la fin. On avait pensé qu'Asghar Farhadi pourrait faire une Palme d'Or, là, on a plus de doutes que ça. Mais lui aussi pourrait très bien se retrouver au casting du futur palmarès. Mais pour notre part, on est un petit peu déçus quand même par ce film dont on attendait beaucoup plus. Et il nous reste à vous dire à demain pour d'autres analyses, ambiance, atmosphère avec Mathilde. À demain.